Voilà, c'est important de prier pendant cette période pour deux raisons. La première,
voilà,
c'est que
Daniel qui va prêcher. Je voulais juste dire
les
que
musulmans,
nous
pour certains, sont
la
à la
famille
recherche
Frère de
réellement de
Concerto
Dieu
sera absent à partir de
comptent
demain
sur ce
jusqu'au
moment,
30, donc 2 semaines.
espèrent
Voilà, donc si on
que
répond
Dieu
pas
va
aux
faire quelque
emails, mais on
chose
pensera à Christine
particulièrement
particulièrement
pour
demain.
eux à ce moment-là. Et
Donc
donc c'est
voilà.
un moyen,
Et mon père est à
c'est un
l'église
moment que le
cambodgienne
Seigneur
avec
peut
Ruth
utiliser
Haroun
pour
ce matin,
les
donc je
toucher
vous
en
salue
rêve
tous.
avec des
C'est pour ça qu'il n'est
visions.
pas. Il n'est pas là.
C'est très
Mais
fréquent.
dimanche prochain, il sera
C'est
là. Et
très
Haroun
très
sera là,
fréquent.
Ruth aussi.
Il y a une deuxième raison, c'est que certains autres musulmans sont assez
J'avais une
énervés
annonce à faire. C'est simplement pour
pendant
rappeler
cette période-là, parce
que,
qu'effectivement, ils ne mangent pas toute la journée.
pour ceux qui sont intéressés, le
Et
ramadan, il
donc,
commence le 20 juillet.
lorsqu'ils passent à proximité des
Donc je ne dis pas
chrétiens,
qu'il
des
faut le
fois, ça
faire
se passe très
spécialement.
mal, parce que, voilà, les chrétiens, c'est un bon défouloir lorsqu'on ne se sent pas à l'aise. Donc, on peut prier pour ces deux raisons-là en ce qui concerne le ramadan. Alors, je ne sais pas où je vais arriver aujourd'hui avec mon thème. Et j'avoue que j'ai un peu ramé, comme on dit, pour arriver à faire quelque chose qui tienne ensemble, parce que beaucoup d'idées s'entrechoquaient. J'aimerais qu'on aille dans Philippiens, chapitre 1, à partir du verset 21, et je vais lire jusqu'à chapitre 2, verset 18, pour vous donner un peu le contexte. Chapitre Philippiens 1, chapitre 1, verset 21. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Je le répète pour le souligner. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous, vous aussi. Réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'avoue que cette lettre est assez extraordinaire. C'est une lettre que Paul écrit avec beaucoup d'émotion. Dans ce seul chapitre, il y a quantité de termes qui parlent de cette émotion, consolation, soulagement, compassion, miséricorde, sentiment, amour, crainte, tremblement, sentiment, confiance, tristesse, pitié. Ce sont tous des termes qui montrent les émotions de Paul. Mais il écrit, et il écrit de la prison. Il est en prison. Et on trouve 5 fois le terme, l'expression « réjouissez-vous ». Et non seulement il dit « réjouissez-vous », mais « réjouissez-vous toujours ». Et ça, c'est pas compréhensible. C'est pas humain. N'est-ce pas ? Lorsque nous avons des petits problèmes, nous ne disons pas « je me réjouis ». Nous disons « je me réjouis pas ». Et on le dit souvent de différentes manières pour que tout le monde le sache. Soit dans le couple, soit même dans d'autres circonstances. Parce qu'on voit que je ne me réjouis pas. Mais en réalité, Paul détient quelque chose. Et c'est de cela que j'aimerais parler. Il détient ce qu'il dit au chapitre 5, au verset 5 du chapitre 2. Ayez en vous les sentiments ou la pensée, et je vais utiliser ce terme plutôt que sentiment, ayez en vous la pensée de Christ, qui était en Jésus-Christ. C'est cette inspiration, c'est cette mentalité qui agit en Paul. Alors, la pensée, c'est un vaste sujet qui touche à beaucoup de disciplines. Les neurosciences en parlent, la psychologie en parle. D'ailleurs, il ne parle pas de pensée, il parle de processus cognitif ou il parle de, je sais pas, de fonctions synaptiques ou de choses comme ça. Pour désigner donc des opérations mentales. Les philosophes, eux, parlent plus facilement de la pensée. Et notamment, ils disent que les gens, les individus lambda, comme vous et moi, nous ne savons pas penser, en fait. Hein, ils considèrent que eux sont détenteurs du savoir et qu'ils ont un peu œuvre d'aider les gens comme nous à comprendre ce qui se passe dans leurs pensées. Je vous invite à la fameuse allégorie de la caverne, n'est-ce pas, où les gens, en fait, ne voient que des ombres et considèrent que les ombres, c'est la réalité. Donc, nous sommes des croyants. C'est ce qu'était aussi l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul n'était pas vraiment impressionné par les philosophes, parce que l'apôtre Paul savait à qui il croyait. Donc j'aimerais me concentrer sur les quelques versets du chapitre 2, à partir du verset 5 notamment, parce que de 5 à 10, il y a une sorte de modèle d'interprétation qui ressort, comme c'est souvent le cas chez Paul. Paul est très logique dans sa pensée et il ne dit rien au hasard. Aucun dans la parole de Dieu, mais lui est particulièrement logique. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ou la pensée qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je vais m'arrêter là. En fait, ce qu'on lit ici, c'est que une attitude mentale, une pensée, a une conséquence dans notre vie, dans nos vies. Chaque fois que nous agissons, c'est le fruit d'une succession d'opérations mentales. Lorsque vous lisez, eh bien, vous devez d'abord percevoir des lettres et vous devez les ordonner par syllabes. Chaque fois, c'est une opération mentale. La perception, ensuite ordonnée en syllabes, ensuite en faire un mot. Et ensuite, il faut donner du sens à ce mot. Chaque fois, ce sont des opérations mentales. Eh bien, lorsque nous agissons dans tous les domaines, c'est en fonction de ce que notre pensée nous dit de faire. Et celle-ci, elle se fabrique avec notre historique, avec notre vie, avec les choses que nous avons vécues, les choses que nous n'avons pas vécues et que nous aimerions vivre. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là en ligne de compte et que nous ne maîtrisons pas, qui nous viennent et qui nous poussent à agir. Et là, nous avons un modèle de la façon dont pense Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments, la pensée qui était en Jésus-Christ. C'est comme un cri de la part de l'apôtre Paul. N'est-ce pas ? C'est pas « je vous conseille d'avoir la pensée de Jésus-Christ ». C'est un cri de son cœur. Il est en prison, je le rappelle, et il exhorte. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. La pensée qui est en Jésus-Christ. Jésus existait en forme de Dieu. N'est-ce pas ? On est d'accord. De là, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Ça, c'est la pensée de Christ. On le lit facilement, n'est-ce pas ? Mais s'il vous plaît, essayez de vous mettre dans la situation un tout petit peu. Christ égal de Dieu. À un moment donné, il y a quelque chose à faire sur la terre. La Trinité est en parfaite symbiose. Les uns, l'un, l'autre, les trois ensemble, c'est une unité absolument parfaite, divine, qui fonctionne dans un absolu que l'homme n'arrive même pas à imaginer. Et de là naît un besoin. Et au moment où il était question de se dire, mais, et là, je ne peux que diminuer la notion de Trinité en disant ces choses, mais bon, à un moment, il a fallu que dans cette Trinité, il se passe quelque chose qui fait que Jésus s'est laissé glisser jusque sur la terre. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Je ne sais pas, mais on n'arrive pas à comprendre ça. Mais tel que Paul le décrit, c'est que il y a eu une sorte de glissement et Jésus, tout en restant relié là-haut, s'est laissé glisser sur la terre, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. N'est-ce pas? Et sa pensée, c'était de dire, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ma propre pensée, si l'on parle de la Trinité, mais je suis aussi d'accord avec la pensée du Saint-Esprit et de Dieu. Et dans cet accord, je me laisse glisser tout en étant lié à cette Trinité et je prends la forme d'un serviteur devenant semblable aux hommes. Ça, c'est la pensée de Christ. Je ne revendique pas ma supériorité par rapport aux hommes. Je ne veux pas conserver ma place. D'une certaine manière, je m'en défais. J'accepte cela. Et ça, c'est la pensée de Christ. Et le dépouillement, c'est le résultat de cette pensée. N'est-ce pas? Je ne resterai pas l'égal. Et le résultat, c'est j'accepte et je me dépouille moi-même de qui je suis dans cette Trinité pour devenir l'égal des hommes. Et en conséquence, et c'est la dernière partie de la démonstration, donc je suis dépouillé lui-même, prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, si quelqu'un avait un mouchoir, ça m'arrangerait. Vous pouvez couper ça, là. Merci beaucoup. Je vais me moucher. Je vais le laisser là, au cas où. Hein. Alors, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Donc ça, c'est la conséquence hein, de son état d'esprit. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et troisième partie, c'est la conséquence, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà donc le modèle que nous avons là, le modèle d'interprétation finalement que nous avons. Alors, ça fait un peu étude biblique, je suis désolé, mais je crois que c'est important de comprendre ce dont il s'agit ici. Existant en forme de Dieu, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ça, c'est son état d'esprit, sa pensée. Mais il s'est dépouillé lui-même, devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Tu es trop gentil. Même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est l'action, c'est le comportement qui est la résultante de la pensée de Christ. Il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même. Et la conséquence de cela, c'est que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, partout où des genoux doivent fléchir, eh bien, ils fléchiront. C'est fantastique, non? C'est absolument merveilleux de voir l'inspiration qu'avait Paul, c'est impressionnant. Donc Christ a été élevé à cause de son comportement, qui donc prenait sa source dans sa pensée. Alors qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous? Donc, comme je l'ai dit, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc, il n'a pas utilisé sa relation privilégiée au sein de la Trinité pour maintenir son égalité avec Dieu. Mais il s'est, donc, comme j'ai dit, laissé glisser jusque sur la terre, jusqu'à nous, et jusqu'à se dépouiller de cette égalité avec Dieu pour devenir un égal des hommes. Qu'est-ce qui motive cela? C'est l'amour. N'est-ce pas? C'est par amour que Christ a fait cela. C'est l'amour de Dieu manifesté en Christ. Qu'est-ce qui doit motiver nos propres pensées, nos propres... Qu'est-ce qui doit, là-haut, être à l'origine, la source de nos actions? C'est l'amour aussi. Et c'est pourquoi on trouve Paul qui prie pour que l'amour des Philippiens augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. On lit ça, je retrouve le texte. En fait, on le lit dans le chapitre 1, à partir du verset 9. « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. » Ça, c'est la prière de Paul pour les chrétiens. Que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. C'est-à-dire que Paul prie pour que Christ soit formé en eux. Il en parle dans Galates. Or, Christ formé en nous, c'est l'amour de Christ justement révélé dans l'attitude mentale du croyant. Vous êtes toujours avec moi ? Si Christ a agi par amour pour nous, s'il est venu sur la terre par amour, eh bien, Paul prie pour que l'amour des croyants soit augmenté, pour que eux-mêmes aient dans leur pensée cet amour qui est le moteur des actions. En tant qu'individu, en tant que croyant, nous sommes appelés à prendre conscience de notre privilège d'être en Christ. Non pas pour nous enorgueillir ou nous glorifier, mais pour servir Dieu. Vous comprenez ? Christ était en Dieu d'une certaine manière avec la Trinité. Et il a accepté de descendre. Nous-mêmes, nous sommes en Christ, amenés en Dieu. Non pas pour que nous trouvions normal d'être égal avec Dieu, mais justement pour que nous puissions, comme Christ, agir pour servir Dieu. Ça a du sens. C'est-à-dire, Christ est parti de là pour aller là et il nous a pris là pour nous amener là. Paul lui-même avait la pensée de Christ. D'ailleurs, il n'avait pas peur de prendre Dieu à témoin. Vous savez, ce n'est pas facile de dire « Dieu m'en est témoin, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Est-ce que vous avez déjà dit quelque chose comme ça à quelqu'un ? Dieu m'en est témoin, que je te chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'était pas un homme des cavernes. Il savait aimer. Dans Romains 9, il dit la même chose. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage. Par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Dans Romains, toujours, juste avant, il dit que rien ne le séparera de Christ. N'est-ce pas ? Paul était un homme dont la pensée était intimement liée à celle de Christ. Intimement liée. Est-ce que nos pensées sont tout aussi intimement liées à celle de Christ ? Vous me direz, oui, mais c'était l'apôtre Paul et c'était dans d'autres temps et il n'y avait pas les ordinateurs et tout ce qu'il y a là pour nous divertir. C'est vrai ? C'est vrai ? N'est-ce pas ? C'est vrai. Et lorsqu'on sera devant Dieu, on lui dira, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'était la faute des ordinateurs. c'était la faute de ma voisine qui me regardait de travers. Je ne sais pas ce qu'on peut dire, ce qu'on pourra dire à Christ si nous avons passé notre vie trop éloignés de sa pensée. Je ne sais pas, on n'aura pas d'excuses. Quel comportement cela doit-il produire chez les saints ? Dans Philippiens 27, on lit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Dans Philippiens 2, verset 15, on lit « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. » D'un côté, Dieu souhaite, nous demande, de vivre comme des saints, d'être ce que l'apôtre Paul dit que les Philippiens sont, des saints. C'est choquant, hein, quand... on entend que dans certaines églises, il faut que le pape intervienne pour que les gens deviennent saints. Moi, je ne sais pas quelle Bible ils lisent, parce que c'est marqué, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ. Voilà. Alors, il y a peut-être différentes catégories de saints, je ne sais pas. Ah oui, il y a ceux qui vous aident à trouver les trucs lorsque vous avez perdu, c'est ça ? Mais en réalité, le Seigneur souhaite que nous allions au-delà de ça. Au-delà d'avoir une bonne conduite, au-delà d'avoir une conduite irrépréhensible, irréprochable. Il veut que nous nous conduisions de manière digne de l'Évangile. C'est-à-dire que nous soyons nous-mêmes, dans notre comportement, dignes de l'Évangile. C'est-à-dire que lorsque Christ nous regarde, il ne soit pas tenté de dire « Ah non, je vais lui enlever l'Évangile. Je vais lui enlever cette bonne nouvelle qu'il a reçue. » Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Parce qu'il sait que c'est ça qui nous sauve jour après jour. Mais qu'est-ce que Christ est tenté de faire lorsqu'il nous voit ? Tout en nous doit exprimer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, apportant le salut aux hommes. Nous devons vivre l'Évangile parce que lorsque nous vivons l'Évangile, c'est là que nous proclamons l'Évangile. Je sais qu'on se bat avec les difficultés dans l'évangélisation, comment annoncer l'Évangile. Et ça fait partie des activités normales dans une église. Mais il y a une façon sûre pour que l'Évangile soit annoncé. Eh bien, c'est que nous nous conduisions de façon digne de cet Évangile. Et lorsque nous avons la pensée de Christ, lorsque notre pensée est pleinement en Christ, eh bien nous sommes l'Évangile. L'Évangile n'a pas besoin alors d'un autre média que de nous-mêmes. Le travail se fait, la parole est exprimée. Nous devons être l'Évangile à ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Aujourd'hui, il y a des églises protestantes, luthériennes, notamment, parce que j'ai eu une expérience luthérienne il y a 2 semaines, pour qui l'évangile n'est pas à annoncer à ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu. Pour eux, ce n'est pas le rôle de l'Église aujourd'hui. Donc on n'a pas annoncé l'évangile à qui que ce soit qui ne connaît pas déjà Dieu. C'est désarmant. Bon, cet homme avec qui nous avons pu collectivement avoir un entretien de 3 heures a aussi avoué qu'il était ministre d'une église sur le déclin, c'est-à-dire que dans 100 ans, il considère qu'elle sera morte. Bon. Voilà. L'évangile est vraiment annoncé par des hommes et des femmes que lorsque ces hommes et ces femmes ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Comprenez, on ne peut pas distinguer l'évangile de l'individu qui a reçu l'évangile. Et pour ne, et quelque part, on ne peut pas vivre 2 vies. On ne peut pas avoir une vie d'un côté et une vie de l'autre. Donc il y a un choix qui doit être fait. On ne peut pas avoir d'un côté la pensée de Christ et puis à un autre moment on ne l'a pas. Il y a un choix qui doit s'opérer, une scission, une coupure. Christ s'est dépouillé lui-même. Et nous devons, frères et sœurs, apprendre et comprendre ce que ça signifie que de nous dépouiller nous-mêmes. Et nous ne le comprendrons que si nous avons en nous cette pensée de Christ vivante et agissante, parce que c'est ça qui motive notre volonté de nous dépouiller de cette vie qui est autre. Vider de nous-mêmes, être obéissant jusqu'à la mort. Et l'apôtre Pierre rajoute, et c'est à cela que vous avez été appelés. On n'a été appelé à rien d'autre. Est-ce que nous avons entendu cet appel? La conséquence du dépouillement pour Jésus, comme je l'ai dit avant, c'est qu'il a été souverainement élevé par Dieu. Nous vivons parfois des situations de crise graves. Et lorsque nous sommes dans une situation, nous avons toujours un choix. C'est de voir la crise, de voir le problème, ou de voir les bienfaits qui sont derrière. Il y avait 2 Chinoises qui se sont converties et en priant, elles ont eu le sentiment que Dieu leur demandait d'aller dans les hôpitaux pour prier avec les personnes qui étaient mourantes, les malades. Et dans un pays comme la Chine, lorsque vous avez cette idée, eh bien, tout de suite, vous êtes en situation de crise. N'est-ce pas? Parce que prier pour des malades en Chine, c'est pas commun et c'est pas autorisé. Donc évidemment, c'est tout de suite une situation de crise. Et donc elles ont décidé, non pas de regarder au problème, mais de regarder à ce que le Seigneur allait faire avec cela. Et elles ont commencé à prier. Et 5 ans après, elles étaient à la tête d'une trentaine d'églises qui réunissaient 4000 personnes, ou 5000 même. Parce que, lorsqu'elles priaient, eh bien, il arrivait que des gens soient guéris. Elles allaient prier pour que les gens donnent leur vie au Seigneur avant de mourir, et finalement, il se trouvait que dans certaines situations, les gens étaient guéris. Alors, évidemment, les familles en général étaient là et assistaient à la scène. Et donc, tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Qui fait ça? Et la réponse, c'était, c'est Jésus. Ces personnes ont été guéries au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Elles auraient pu regarder à la crise et se dire non, là, on n'y va pas, sinon on va passer notre vie en prison. Mais elles ont choisi de regarder à ce que le Seigneur allait faire de la situation. Et le Seigneur a agi. Mais vous savez, l'épître là, cette lettre aux Philippiens, nous parle de ça. C'est que lorsque nous avons la pensée de Christ, lorsque nous sommes en situation où nous devons faire un choix entre la crise, entre le problème et entre ce que le Seigneur va faire, eh bien, si nous avons la pensée de Christ, si nous avons la pensée de Christ, je vous laisse terminer ma phrase. Nous allons choisir peut-être de nous mettre en danger, peut-être même de mourir, en sachant, parce que c'est ça la pensée de Christ, en sachant que, montant sur la croix, Dieu va agir pour le bien de l'humanité, pour mon bien, en sachant que si je vais évangéliser dans un endroit où je n'ai pas le droit nécessairement, eh bien Dieu va utiliser cela pour le bien des personnes et de la situation. Ça ne veut pas dire que nous devons manquer de sagesse dans la façon dont nous faisons les choses. Ça veut dire que nous devons être remplis de la pensée de Dieu pour que nous sachions ce que Dieu veut que nous fassions au moment où il faut le faire. Je vais devoir m'arrêter et je suis désolé. Je vais juste terminer par la conclusion que j'ai, une conclusion rapide. Parce que, en fait, ce que j'aurais souhaité vraiment que vous compreniez, c'est que lorsque nous disons où nous prions par le nom de Jésus. C'est cela que ça signifie. C'est au nom de sa pensée qu'il l'a inspiré lorsqu'il était dans la Trinité à descendre sur la terre, à se donner en tant que serviteur pour que les conséquences soient positives pour le royaume de Dieu. Et si nous-mêmes, nous avons cette pensée de Christ, alors nous vivons non plus notre vie au nom de Daniel, ou au nom de Alex, ou au nom de Paul, ou au nom de qui que ce soit, mais nous vivons notre vie au nom de Jésus-Christ. Et lorsque je vis ma vie au nom de Jésus-Christ, réellement, alors je suis aussi celui qui a la pensée de Christ dans les choses que j'accomplis. Mais pour avoir la pensée de Christ, il faut posséder la vie de Christ. Et on ne peut pas imiter la vie de Christ. On ne peut pas se dire, tiens, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place? Il y a des bouquins comme ça. On ne peut pas se dire ça. Et ça ne sert à rien de se le dire. Soit on a la vie de Christ, soit on ne l'a pas. Et si on a la vie de Christ en nous, alors il faut que cette vie qui agit en nous puisse sortir. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Je vais vous le relire en sautant un passage. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Dieu produit, c'est ça qui est dit. Dieu produit, où ça? En nous. Alors, mes bien-aimés, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous comprenez? C'est bien Dieu qui fait les choses en nous. Mais c'est à nous de les faire sortir. C'est qu'il accomplit les choses. On n'a pas besoin de lui demander de ce qu'il doit faire. Il le fait. Et sur la base de ce qu'il fait et de la volonté qu'il nous donne pour agir, eh bien nous devons agir. Nous devons le faire. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous. Nous devons exploiter pour notre marche chrétienne les choses que Dieu produit en nous. Comment? Eh bien, si on va dans Philippiens 3, au verset 12 à 14... L'apôtre Paul parle d'une course, il en parlait déjà dans le chapitre 2. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. » Frères et sœurs, si vous avez tendance à vivre dans le passé, alors je vous en conjure, dans le nom de Jésus, oubliez ce qui est en arrière. Parce que vous ne pouvez pas vivre sur les choses du passé, ni les bonnes, ni les mauvaises. J'oublie ce qui est en arrière en me portant vers ce qui est en avant. Et je cours vers le but. Et il y a une troisième recommandation, celle dont je vous ai parlé tout au début, donc chapitre 4, la dernière elle est là, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous. Voilà comment on peut travailler à notre salut en utilisant cette pensée de Christ, en nous séparant de nous-mêmes, en prenant en nous le nom de Jésus-Christ, en exprimant ce que Dieu produit en nous, en l'exprimant à l'extérieur. En ne pas restant bloqué par les événements du passé, par les choses que nous avons vécues, et en nous portant vers ce qui est en avant, et en ayant pour règle tous les jours dès le matin, quand je me lève, réjouissez-vous. Ça fait 2 ans qu'il pleut, c'est pas grave. Réjouissez-vous. Mais oui, mais on est sensible pour certains à ça. Eh bien, moi ce matin, je me suis réveillé, j'avais pas envie de me réjouir. Alors, le premier chant qui m'est passé par la tête, je l'ai attrapé et je l'ai chanté. Et ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. L'apôtre Paul chantait en prison. Vous avez encore 2 minutes ? Il y avait un homme qui s'appelait Hector Vaguilla à Cuba. Il était chrétien et ça n'a pas plu aux autorités, donc ils l'ont pris. Ils l'ont emmené en prison. Et dans cette prison, ils avaient une méthode particulièrement bien travaillée pour terroriser les prisonniers. Il mettait le prisonnier tout seul dans une cellule avec un gros ours noir. Et donc à peine les gens étaient précipités là-dedans, qu'ils tambourinaient contre la porte et hurlaient pour pouvoir sortir. Et donc, ils ont pris Hector Vaguilla, ils l'ont placé dans cette cellule. Il a rapidement fait le tour de la cellule, il a vu l'ours qui était là-bas. Il s'est mis dans le coin le plus éloigné, il s'est assis et il a chanté. Et il a chanté. Et il a chanté. Et il a chanté toute la nuit. Il a chanté. Et l'ours n'a pas bougé de toute la nuit. Et le lendemain, les gardiens sont venus pour ouvrir la porte et l'ont fait sortir. Très étonné de l'attitude de cet homme. Et en sortant, il a vu que, en fait, l'ours était enchaîné et que de toute façon, il n'aurait pas pu l'atteindre. Mais vous savez, la victoire, là, c'est que cet homme a chanté en prison. Là où tous étaient terrorisés, il a pris la pensée de Christ et il a chanté. L'apôtre Paul chantait en prison, chantait les louanges de Dieu et exhortait « Réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours. » Voilà. Seigneur notre Dieu, c'est une merveille que de plonger les regards dans la parole et de découvrir, Seigneur, que notre pauvre intelligence passe à côté de tellement de vérités. Seigneur, je prie pour que nous soyons au bénéfice de ta parole, que tu nous aides à la lire pour en comprendre tous les sens. Que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien. Et que, Seigneur, nous puissions aujourd'hui même recevoir la pensée de Christ, celle qui fait que nous vivons au nom de Christ, que nos actions, nos réactions, nos comportements sont tous complètement issus de cette pensée. Seigneur, que nous puissions vivre séparés de nous-mêmes et que ton nom soit glorifié par ceux, Seigneur, qui ont accepté de déposer leur vie, ceux qui ont accepté et qui ont compris que l'esclavage au Dieu vivant est la plus grande liberté que l'on puisse trouver sur la terre. Seigneur, merci de glorifier ton nom dans chacun aujourd'hui.